l'heure des autotests, du gel hydroalcoolique et des masques de retour même en extérieur, la notion de banquet semble très très éloignée de notre quotidien. Elle est pourtant au centre d'une exposition très réussie à la Cité des Sciences à Paris, exposition très fréquentée pour ce que j'ai pu en observer. Et pour cause, on y touche, on y renifle, on y manipule, on y déguste. Et ça fait du bien en pleine crise sanitaire. Le banquet y est présenté à la fois comme une sorte de miracle scientifique et de feu d'artifice d'émotion. Pour parler de cette rencontre entre science et cuisine, avec nous aujourd'hui le commissaire scientifique de l'exposition, le physicien et chimiste Raphaël Aumont. Bonjour.
Bonjour.
L'exposition Banquet a démarré fin novembre, ça veut dire que sa conception a eu lieu en pleine pandémie, c'est un acte de résistance de votre part ?
Oui, c'était pas facile parce qu'on a passé plus d'un an à concevoir cette exposition et avec le doute à chaque fois de savoir si ça allait pouvoir être fait en présentiel ou alors en virtuel. Et c'est vrai que quand on parle banquet, comme vous l'avez très bien dit en introduction, on parle émotion, plaisir, on a envie de toucher, on a envie de sentir, on a envie de goûter des choses. Donc c'était un vrai challenge, mais on a mis toutes les précautions pour que les gens puissent justement manipuler, sentir, tant que c'est encore possible.
C'est une façon de résister à la morosité de la pandémie.
Mais la nourriture en général, de toute façon, c'est ce lien social qui reste et qui est encore présent même ce soir. Quelque part, c'est un banquet aussi, le 31, même si des fois c'est entre amis et c'est festif autour d'un paquet de chips, pourquoi pas. Mais c'est ce lien social, en fait, c'est ces échanges, cette amitié. On transmet aussi de l'amour à travers la cuisine. Donc tout ça, ça reste et ça restera quoi qu'il arrive.
Et Raphaël Aumont, on a redécouvert la cuisine et le plaisir de l'alimentation avec la Covid, en tout cas le plaisir de faire à manger.
Complètement. Oui, parce que justement, confiné chez soi, on redécouvre que la cuisine est une pièce à part entière. On a envie de faire soi-même. On se rend compte aussi que on mange mieux. Des fois, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on achète comme produit agroalimentaire ou industriel. Et puis, c'est meilleur pour la santé. Et on échange plein de choses, que ce soit avec des familles, avec ses amis, avec ses enfants. On transmet, on éduque. Et ça, c'est important aussi. Donc, tout ça, c'est autour de la gastronomie. La gastronomie, c'est pas qu'une histoire finalement de ce qu'on a dans notre assiette. C'est salé, c'est sucré. C'est plein de métiers tout autour et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre à travers cette exposition.
Est-ce que ce retour aux fondamentaux, ça explique aussi, d'après vous, le succès par exemple de l'œuf mayonnaise qui a été relevé par une plateforme de livraison alimentaire en cette fin d'année ?
Mais oui, on revient à ces fondamentaux et c'est aussi ça qu'on a voulu mettre dans cette expo parce que quand on parle banquet, on parle des fois, on se dit tiens, ça va être compliqué, ça va être une cuisine qui est inabordable ou qui est chère. Et là, on s'est dit, au contraire, on peut émouvoir et je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour un chef de cuisine de donner de l'émotion à travers un œuf mayonnaise, à travers des sardines pommes à l'huile, plutôt que de mettre une cuillère de caviar sur une langoustine mi-crue où finalement il n'y a pas beaucoup de choses à faire si ce n'est bien sélectionner le produit. Mais émouvoir avec un œuf mayonnaise, waouh quoi, donc respect. tant mieux.
Raphaël Aumont, l'exposition, elle est découpée en trois parties. La première consacrée vraiment à la cuisine, à la préparation. La deuxième au goût et aux odeurs. Et la troisième à la dégustation. Oui. Alors, côté cuisine, préparation, vous êtes physico-chimiste.
Oui.
Qu'est-ce que la science peut nous apporter ?
Beaucoup de choses, parce que finalement, quand on cuisine, c'est une affaire de science. Quand vous cuisez un œuf, c'est des histoires de coagulation. Vous voyez, même ce blanc d'œuf, justement, au début, il est liquide, visqueux et transparent à moitié, je vois à travers. Et puis d'un coup, il devient solide, blanc, opaque. Et bien, il s'est passé des tas de réactions chimiques, physico-chimiques. Faut appeler un chat, c'est pas un gros mot. Quand vous faites, par exemple, vous faites un thé, vous faites une infusion, une décoction, une fermentation, vous faites de la diffusion de saveurs. Donc, tout est une affaire de physico-chimie en cuisine, faut l'accepter. Et du coup, la science, elle va pouvoir... Il y a deux choses importantes, c'est maîtriser les préparations, c'est-à-dire ne plus jamais rater une mayonnaise, par exemple. On en est encore là en 2021 et bientôt 2022.
Et alors, votre astuce, allez-y, dites-nous.
L'astuce de la mayonnaise, c'est de se dire pourquoi ça marche et comment ça se passe, pourquoi ça monte, en fait. Et donc, c'est une histoire de disperser proprement et finement de l'huile qu'on ajoute dans l'eau du jaune d'œuf. Parce que dans un jaune d'œuf, on croit pas, mais il y a 50% d'eau à peu près. Et donc, c'est faire ce mélange entre de l'huile et de l'eau via les protéines qui sont dans ce jaune d'œuf, qui sont des tensioactifs. Et donc, du coup, on se dit, pour réussir ça, il faut laisser le temps à former des fines gouttelettes d'huile et donc verser l'huile en un filet très, très fin et agiter le plus vite possible. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comprendre ces mécanismes Et du coup, on peut se détacher de tout un tas d'astuces qui n'ont aucun sens, de type, il faut tourner en 8, il faut rajouter la pincée de sel plutôt au milieu de la cuisson, ou au contraire, il faut que l'œuf ou le jaune et l'huile sortent du frigo alors que l'huile doit être à température ambiante, etc. Enfin, il y a tout un tas d'astuces de chef qui n'ont plus lieu d'être, parce qu'on comprend ce qui se passe quand on cuisine. C'est ça la science de la cuisine. Et donc, on maîtrise les préparations, et ensuite, on peut aller plus loin parce qu'on peut innover. Et on peut se dire, du coup, maintenant que j'ai compris ce que c'est qu'une émulsion, peut-être que je peux faire une mayonnaise sans jaune d'œuf. Alors, est-ce que ça s'appelle mayonnaise ? Peu importe, moi je m'en fiche, mais on est capable de faire mousser ou d'émulsionner un jus d'échalote, un jus d'oignon, un jus d'ail, un jus de je sais pas quoi, un jus de légumes et faire un truc vegan, etc. etc.
Et parmi les idées reçues aussi, il y a par exemple les blancs en neige, ça ne sert à rien de mettre du sel dans les blancs en neige.
Ça sert pas à grand chose au premier ordre, si vous voulez, parce qu'on va se dire, ouais, mais alors le sel, ça joue sur les charges ioniques, je sais pas quoi, des protéines, mais en fait, pour faire monter des blancs, il faut y aller doucement au début, parce qu'il n'y a pas un blanc, il y a deux blancs. Voilà ce qu'on apprend aussi lors de cette exposition. On a cuit des œufs à différents temps et différentes températures. On a montré tout un tas de photos. Il y a un simulateur de cuisson d'œufs. Tout ça, les gens peuvent le toucher, le sentir.
Pour réussir ses œufs mollets, ses œufs à la coque.
Oui, exactement. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas un blanc d'œuf, mais deux blancs d'œufs. Il y en a un qui cuit plus vite que l'autre. Et donc, du coup, déjà, quand on parle de monter un blanc en neige, il faut déjà battre ces blancs pour qu'ils soient homogènes. Et ensuite, on peut accélérer la vitesse. Et là, on se rend compte que finalement, la pincée de sel avant, après, la pincée de sucre ou je sais pas quoi, ça joue pas à grand chose.
Mais Raphaël Aumont a analysé tout comme ça en termes de science. Est-ce que ça enlève pas un peu de magie à la cuisine?
Alors ça, c'est une bonne question et c'est vraiment et elle est fréquente. Mais en fait, c'est un peu le tour de le magicien qui révèle son tour. Mais du coup, on peut passer à autre chose et ça va donner plutôt un outil pour faire de la créativité. C'est-à-dire que le chef, il va plus tracasser à se dire, ou même, je parle du chef, mais ça peut être la ménagère, le ménager, enfin bref, l'amateur, il va pas se dire, ah là là, faut d'abord que je la réussisse et ensuite je pourrai innover. Parce que là, il va toujours maîtriser les préparations et donc il va avoir plus de temps pour créer, pour associer différemment des saveurs, pour aller chercher des autres produits. Et là, c'est quand même plus intéressant que de se poser toujours les mêmes questions de bien cuire un œuf, etc.
Et la cuisine moléculaire, c'est une notion qui ne vous plaît pas tellement, en fait.
Ouais, c'est un peu malheureux parce que tout est moléculaire, ce que je disais en introduction. C'est-à-dire que quand vous mettez un sachet de thé dans de l'eau, il y a déjà des histoires de molécules. La blanquette de veau de ma grand-mère ou le gigot traditionnel de 7 heures, il est aussi moléculaire que l'espuma ou le sorbet à l'azote liquide, parce que c'est des histoires de molécules. Alors la cuisine moléculaire, ça a été introduit dans le sens, c'est une cuisine nouvelle avec les ingrédients nouveaux et puis un siphon, etc. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui va être complètement dépassé dans 10 ans, donc ça n'a pas de sens. Faut pas voir la cuisine moléculaire comme une mode. C'est un peu le risque, se dire ah, tiens, tu veux manger quoi ce soir, japonais, moléculaire, italien. Ça c'est un faux débat, ça. Voilà, ça veut dire n'y allez pas. Si vous voyez un restaurant où c'est marqué cuisine moléculaire, moi je vous déconseille, parce que ça veut dire que ils vont vouloir vous faire manger dans des pipettes ou dans des seringues en vous disant regardez c'est moderne. C'est juste ringard et ça donne pas envie. On parle de plaisir et d'émotion. Moi j'ai pas envie de manger une sauce dans une seringue.
Et la physique et la chimie, Raphaël Aumont, ça permet aussi de tirer le meilleur des ingrédients qu'on utilise, par exemple de savoir à quelle température il faut les cuire.
Exactement, et c'est ce qu'on a montré avec Thierry Marx justement dans l'exposition, c'est-à-dire on a fait tout un travail autour de la tomate et on se rend compte que mieux comprendre une tomate nous permet de tout décortiquer, d'avoir 5-6 textures avec la tomate, avec des amertumes, avec de l'acidité, avec du sucré. C'est aussi un travail qu'on a mené avec Thierry sur le chocolat, sur l'œuf, et donc on a pris des choses simples, accessibles à tous, pour montrer que mieux comprendre un produit, c'est la clé pour après faire une cuisine la plus juste possible. C'est ce que dit Thierry d'ailleurs, juste température, juste texture, juste saveur, et pour des justes émotions quelque part.
Et ça permet aussi d'inventer des mélanges. Dans l'exposition, on peut imaginer un mélange concombre, menthe, chocolat par exemple, en regardant les différentes
compositions. Oui, alors ça c'est un travail qu'on a mené et qu'on mène encore sur le food pairing, c'est-à-dire les associations de saveurs, et le principe c'est de regarder la science. Pourquoi par exemple quand vous mangez un jus de passion, vous avez 400 molécules à peu près qui sont sollicitées, 400 récepteurs, pardon, de molécules. Pareil si vous mangez une mangue, et entre la mangue et la passion, enfin le fruit de la passion, il y a à peu près 50 molécules identiques. Et donc le cerveau, lui, il va faire un mélange cohérent, parce que du coup, il va se dire, ok, ça marche, parce que ça excite les mêmes récepteurs. C'est pour ça que poire chocolat, ça fonctionne, mais aussi figue jambon sec, alors qu'on pourrait se dire quand même, c'est quand même deux univers différents, mais il y a des molécules communes. Et donc, en analysant toutes ces molécules communes, on est capable de prédire des nouvelles associations. Et ça, c'est intéressant. Vous parlez de chocolat menthe, concombre. Eh bien oui, chocolat concombre, ça marche même mieux sur le papier hein, que chocolat menthe. Alors après, c'est au chef, évidemment, de jouer sur les textures, les saveurs, mais ça donne des opportunités nouvelles d'association. On se rend compte qu'avec la cerise, le café fonctionne très très bien, par exemple. Moi, je connais pas trop de pâtissiers qui font une tarte cerise-café. Bon, voilà. Donc peut-être qu'aussi pour le yaourt de demain, à part pêche abricot et puis fruits rouges, peut-être qu'on va avoir figue, café, cannelle, orange, cerise, fraises des bois, poireaux, pourquoi pas. Donc il y a des associations à aller chercher qui sont intéressantes.
Avec Thierry Marx, vous avez cofondé le Centre français d'innovation culinaire. Vous êtes un peu consultant en science pour des chefs, en fait.
L'idée, c'est d'avoir ce lieu, effectivement, avec Thierry Marx. On a monté, il y a une dizaine d'années maintenant, le Centre français d'innovation culinaire, qui est hébergé à Paris-Saclay. Et effectivement, autour de ce laboratoire et de cette chaire universitaire Cuisine du Futur, eh bien, c'est l'occasion d'avoir ce qu'on appelle un cerveau collectif, c'est-à-dire d'accueillir tous ceux qui veulent réfléchir à la cuisine d'aujourd'hui et de demain, mais aussi bien entreprises, artisanat, étudiants, professionnels, faire toute une émulsion, justement, pour garder un terme culinaire, et se dire que la science, c'est un outil pour comprendre et mieux appréhender le futur. Alors, ça peut être on vient de parler des associations de saveurs, ça peut être sur des textures nouvelles, ça peut être aussi relever des challenges, se dire, on va travailler peut-être sur le sans sucre, et donc, quel est le rôle vraiment du sucre en pâtisserie? On a travaillé beaucoup avec Valrhona et Frédéric Beau là-dessus, justement, sur la gourmandise raisonnée. De se dire, peut-être que le Paris-Brest ou la crème pâtissière, on peut peut-être enlever un peu de jaune d'œuf, un peu de beurre, un peu de machin, mais on va garder cette gourmandise sans parler sur des produits light. Et puis, c'est aussi réfléchir sur les emballages de demain, ce qu'on appelle les coproduits, les déchets. Il y a des fibres, par exemple, qui sont un peu dures en bouche, mais ces fibres-là, d'un poireau, d'une carotte ou de je sais pas quoi, ça peut peut-être faire un emballage de demain. Là, on a déposé 2 brevets l'année dernière sur des mousses à base d'algues. C'est une chose complètement inédite, mais qui nous permettent aussi, grâce à la cuisine, d'aller chercher les matériaux alimentaires et les matériaux de demain.
Raphaël Aumont, dans la partie amuse-bouche de l'exposition, la deuxième partie, on explore le lien entre les sens et la cuisine. Est-ce qu'on peut travailler ces sens pour vivre plus d'émotions? Et je pense notamment aux personnes qui ont perdu l'odorat et le goût à cause de la Covid.
À cause de la Covid, et tout à fait. Bien sûr, c'est-à-dire que il y a un espoir quand même qu'on peut rééduquer son palais, on peut rééduquer les sens, les cellules, les bourgeons olfactifs et gustatifs se renouvellent. Alors parfois, ça met plusieurs mois, etc. Mais il y a beaucoup un aspect culturel aussi. Donc, il faut vraiment que tous ces gens qui ont perdu le goût n'hésitent pas à aller faire de la rééducation, parce que ça fonctionne. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut jouer avec nos sens, parce qu'on mange pas qu'avec la langue ou le palais. Il y a une affaire de bruit, il y a une affaire d'émotion globale, on va dire, c'est holistique. Et donc tout ça, on met ça en éveil dans l'expo aussi. Donc pour jouer un peu sur nos sens. Par exemple, si je vous sers un verre de vin rouge, vous allez dire oui, vous allez décrire avec des descripteurs de vin rouge, alors que peut-être c'est un vin blanc coloré avec un jus de betterave. Et donc on met comme ça, on teste, les spectateurs de l'expo vont tester ça sur des madeleines notamment, avec des arômes naturels. Et description, on parlait tout à l'heure de Valrhona et du chocolat. Et là aussi, apprendre à décrire ce qu'on mange pour ressentir au maximum les émotions, ça c'est un travail qui est intéressant aussi et qui est à mener encore.
Raphaël Aumont, en quelques secondes, une petite suggestion de menu de plat pour ce soir?
Mais des choses simples, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément dépenser plein d'argent en se disant on va se faire plaisir. On parlait tout à l'heure de l'œuf mayonnaise, et pourquoi pas. Mais un produit qui est vraiment bien traité, des cuissons dernière minute, par exemple un œuf mollet, vous le cuisez très très bas, donc vous attendez, il ne faut pas vraiment que ça frémisse l'eau, vous êtes à 70 degrés pendant 30 minutes à peu près, vous allez faire un œuf mollet, vous servez ça avec une émulsion de champignons, ou alors un siphon, ou à l'asperge, ou alors, asperge c'est plus trop de saison, mais même des potimarrons, des potirons. Vous allez vous régaler avec cet œuf entre guillemets parfait, copeau de parmesan dessus, un peu de noisette, quelques marrons glacés, et voilà quoi. Et ça coûte 2 euros par personne. Exactement.
Bon appétit.
Faisons
ce
des choses simples et bonnes. Voilà.
Ouais. Raphaël Aumont, physicien chimiste, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
C'est moi qui vous remercie. Et puis bonne fête à tous.
Merci, bonne fête. L'exposition Banquet, c'est à déguster jusqu'au 7 août 2022 à la Cité des Sciences à Paris.